טוב, יאללה, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונעשה שנזכה להגדיל תורה בצורה ראויה בעזרת השם ולשמתם למרדי ונצאת ג'וויה בעזרת השם יתברך et le 18 du mois de Av, un grand mazel tov à Idan Hajjaj qui vient de faire sa bar mitzvah hier, très belle soirée. Shem Baruch Otro Bechol Asher Lach, ce matin je suis racheté par Yaakov Mordechai pour l'askara de sa maman Bella Bat Eliezer Yehuda HaKohen Bat Gittel Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon V'chol HaShorvot Imah Bichlal Arachamim Yosef V'chol V'chen Yehi Ratzon V'mar Amen Nishmat HaSorah Chaim. En même temps, une grande atzlacha sur tout le chemin de Mordechai Yaakov Mordechai Yakar de Genève, qu'on embrasse très fort, toujours avec nous, même si on ne le cite pas beaucoup. Daniel Bilar aussi, tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, la liste est longue. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Pensons aux émotions de l'âme de Georges Ben Simcha Alice. Be'ezrat Hashem Yitbarach, une grande achlama meira, foi shlema pour Morat Imi Vivian Bet Esther, Sarah Tal Bet Frat Miriam Mir, Ben Rivka Fitousi Yanai Ben Esther, Ben Machlou Ben Sarah, Hayu Rochama Esther Bat Rivka, Shu Ben Esmin Adam Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Echen Kol Arishima Baruch Ben Sufan, Ben Rut Sufan, Nir Ben Rut Sufan, Ora Bat Rivka Zawi, Echen Al Zaderech, Toda Rabba. On commence notre premier shiur. On va parler d'un sujet très ragish pour ce premier shiur. Et en même temps, ragish, ça veut dire très sensible, et en même temps très difficile parce qu'il n'a pas beaucoup de solutions. De prime abord, vous savez que dans les 10 tikkunim des malédictions que l'homme et la femme ont reçues à cause de la faute originelle, l'un d'entre eux, ce sera le gidoul banim, c'est-à-dire l'éducation des enfants, fait partie de la difficulté dans la vie qui, à la fin des temps, rejoint complètement toutes les malédictions. Ça veut dire que on a eu des périodes plus douces pour l'éducation des enfants, la nôtre quand on était jeune, ceux d'avant où les parents disaient quelque chose, les enfants le faisaient beaucoup plus facilement. L'âge de la révolte était beaucoup plus cadré, et quand un père, par exemple, il disait non pour un mariage, c'était non. Quand il y avait, même si c'était des cas d'exception, et quand il y avait des volontés qui se voulaient, les gens faisaient extrêmement attention au kavod de la famille. Ça veut dire que des fois, il pouvait arriver dans les anciennes générations que des voyous ils sortent d'une famille. C'était assez rare. Les gens faisaient très attention, n'étaient pas égoïstes et égocentriques comme on le voit aujourd'hui. Ça veut dire que quand on se renseigne par exemple sur une famille aujourd'hui pour savoir qui est le frère, qui est la sœur, qui est ceci, cela, les filles elles faisaient attention et les garçons faisaient attention pendant beaucoup de siècles. De ne pas être un point noir dans la famille, une espèce de tare dans la famille, ce qui fait que, en général, les gens, ils partaient au loin. Ils partaient parce qu'ils n'y arrivaient pas. Même dans le monde de la Torah, quand il y avait des gens qui descendaient du niveau de la Torah, eh bien, ils changeaient de ville pour ne pas être une espèce de tache noire. Je me rappelle que j'avais même lu des histoires où, la Kalas Mariel disait à son frère qui était complètement à la masse, elle disait, est-ce que tu vas venir au mariage? Je dis, non, je préfère ne pas venir pour ne pas entacher. Ne pas entacher la famille, quoi, parce que c'est difficile. À un point tellement important que la Torah nous stipule que Rivka, la femme de Yitzhak Avinu, Rivka Imenu, Aléa Shalom, a préféré se faire enterrer seule que de se faire enterrer en famille pour que on ne voit pas Esav, qui est venu de ses entrailles, venir à l'enterrement. Donc quoi, c'est ça le fils de... Les gens, ils avaient du respect. Il y avait une espèce de situation où on était capable de se remettre en question en disant, mais c'est honteux, t'es quand même le fils. Comme m'a raconté quelqu'un, un rave m'a raconté qu'il a un fils qui a quitté complètement la Torah et qui fait des bêtises. Et son père, il lui a dit, même si tu n'as pas la force d'éviter de faire des bêtises à la plage devant tout le monde avec les filles, alors pense aussi que tu as un père qui est rave et que quand on te voit pas toi. Toi, tu n'intéresses personne. Mais tu es le fils d'un rave qui, lui, par contre, intéresse quelques personnes. Et la réponse du fils a été, je n'ai pas demandé à être le fils d'un rave. Alors, c'est vrai qu'il a raison, le fils. Donc, ce qu'il dit dans l'argument, il n'a pas demandé à l'être. C'est ton choix à toi d'être rave. Moi, je t'ai pas demandé de l'être. Je veux pas, moi, me mettre sur les épaules, ta responsabilité, de ton kiddush Hashem. Mais c'est une réponse qui est digne des toilettes. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de Torah dans la vie. C'est pas qu'une question de Torah. Une question aussi de savoir vivre. Une question aussi de savoir vivre. Une question aussi sur le fait que, si ton copain, il va te dire un truc, non, ne le fais pas, c'est honteux pour moi, tu vas pas le faire. Là, on parle de ton père, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a donné à manger, celui qui t'a emmené à l'hôpital quand t'étais petit. On parle de choses qui ne touchent pas spécialement aux lois que tu détestes tellement, qui, dès que tu vois la Torah, comme comme ça, on dirait que tu meurs, dès que tu vois une synagogue, vas-y, retour satana, je peux pas rentrer, je brûle de l'intérieur. Ils sont bizarres comme ça. Mais la reine, il est très important qu'il y ait au moins, quand il n'y a pas de Torah, dans une famille, qu'il y ait au moins beaucoup de savoir-vivre. Mais mec, je me rends compte très souvent qu'on parle minimum de savoir-vivre. Mais le savoir-vivre, ça veut dire que le fait de se tenir un petit peu ensemble, le fait de pouvoir être Bezrat Hashem main dans la main, t'es mon père, t'es religieux, je suis ton fils, je suis pas religieux, mais tu restes mon père et je reste ton fils. Viens, on garde ça. Viens, on garde ça. Par exemple, un jour, je me souviens, il y a peut-être 6-7 ans ici à Ashdod, d'un père qui est venu avec sa fille, parce que sa fille avait décidé de rejeter toute la pudeur, toute la tzniout. Donc le père m'a dit, avec sa barbe et sa kippa noire sur la tête, comment je fais? J'ai une fille, je l'aime, elle a 18 ans, je veux pas ceci et cela, mais comment je fais? Comment je fais? Alors je lui ai dit, viens avec ta fille, et ils sont venus ensemble, et je me souviens que la discussion qu'on a eue était non pas basée sur le domaine de la halakha, mais sur le domaine de si ton père est malade et qu'il a besoin d'un médicament, est-ce que tu lui apporterais ce médicament? Elle m'a répondu, ben oui, s'il a besoin d'un médicament, bien sûr, je vais le chercher. Et je lui ai dit, et si le fait de, que à la maison, tu te comportes comme ça, que ça le rend malade, et que tu es toi-même le médicament? Elle m'a dit, je comprends pas. Je lui ai dit, ben c'est très simple. Là, tu vis chez tes parents pour l'instant. Tu dis que tu fais ce que tu veux, Zenachon. Mais à partir du moment où tu vis chez tes parents, à partir du moment où tu vis ensemble, c'est pas une question de Torah, c'est pas une question de je suis pas religieux, je fais ce que je veux. Nachon, moi aussi j'étais pas religieux une partie de ma vie, je faisais même pas kippour, tout le monde le sait, je faisais pas shabbat, je mangeais pas kasher, c'est vrai, j'ai connu cette situation. Je suis pas né à Mea Shearim ou à Bnei Brak. Et je disais quand j'étais jeune, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de faire teshuva, je fais teshuva, si j'ai pas envie de faire teshuva, je fais pas teshuva. Si j'ai envie de fumer, je fume. Si j'ai pas envie de fumer, je fume toi. Je ne fume pas. Mais ce qu'oublient les gens, ce que moi-même j'avais oublié à une époque, quoique j'ai jamais sali le nom de ma famille, c'est que t'es pas seul. Quand on te voit, tu appartiens à une situation où, quand ton frère ou ta sœur va se marier, on dit quoi? T'es le frère de ce raté là? On n'a pas envie. Pourquoi on n'a pas envie? Parce que l'honneur de la famille, comme le dit la Torah elle-même, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de choix. C'est une question que quand tu fais un trou dans la barque, n'oublie pas que tu coules tout le monde avec toi. Tu coules tout le monde, parce que dans cette barque dans laquelle tu es, tu peux pas vivre de façon égoïste. Vis ce que tu veux dehors. Et c'est ce que j'ai dit à cette fille. Quand cette fille, elle me dit, moi, Rav Tutu, je suis pas religieuse, j'ai pas envie d'être avec une robe et une jupe longue, je m'en fous, moi, de tout ça. Ok, je vais au Geinam, eh ben, je vais au Geinam. C'est une génération d'aujourd'hui, on a peur de personne, et on saute d'un toit à un toit, et on en a rien à faire. Je lui dis, mais c'est pas une question de Torah, c'est une question de savoir vivre. On reproche souvent de façon très très maladroite au monde religieux de pas avoir de savoir vivre. Mais Zelon Achon, le monde chiloni n'a pas de savoir vivre. Par exemple, je donne un exemple. Le mec, il est à table, il sort une cigarette pendant Shabbat et il fume. D'accord? Je lui dis, c'est Shabbat. Ok? Il te dit, c'est ton Shabbat pour toi, mais c'est pas le mien. Mais ça me dérange. Eh ben, t'as qu'à changer de place. Mais par contre, s'il fume dans un endroit où c'est interdit de fumer, il prend une amende. Et là, par contre, il s'excuse d'avoir fumé dans un endroit où il dit, j'avais pas vu. Alors, je comprends pas. L'esprit doit toujours aller dans le sens des gens qui sont ratés de l'esprit. Ça veut dire que, sous l'orgueil, la bêtise humaine, le monde religieux, le monde de la Torah, le monde de la vérité, il doit se plier au monde du mensonge. Que toi, tu veux pas être religieux, c'est ton problème. Et on n'a pas le droit de voler le libre arbitre, je dis à voix haute. On n'a pas le droit de forcer une personne à être religieux. Dieu ne veut pas qu'on le force. On n'est pas une religion qui forçons les autres. Chasvei shalom. On n'est même pas une religion du tout. On est un système de vie. Car dans chaque juif, il y a une grande valeur. Même s'il n'est pas, il n'est pas mis les tefillines, il ne fait pas encore shabbat, ou il ne mange pas encore kasher, le halil velo alechem. Malgré tout, il y a toujours dans chaque juif une grande valeur qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, tout comme moi, celui qui m'avait connu à l'époque, j'avais des cheveux, on m'appelait d'ailleurs Rocky Balboa. J'avais des cheveux comme ça, on aurait dit un mouton. J'avais des cheveux énormes. Tu vois une photo, les gens me reconnaissent pas du tout. Quand j'étais pas religieux, eh ben, alors quoi, tu m'aurais condamné? Non. Grâce à Dieu, un jour, j'ai eu le mérite de faire teshuva, de m'intéresser à l'étude de la Torah. Je comprenais pas ce que je faisais à la synagogue. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre, mais de moi-même. Mais c'est vrai que si on m'avait forcé à venir, ben, peut-être que j'aurais dit non. Pourquoi? Parce que Dieu veut le cœur. Dieu veut le cœur de l'homme. Et, tôt ou tard, il comprendra. Ou avec un loto, ou avec un accident, que dans la vie, on est venu pour une mission et que la paracha le dit, vaya ekev tishmerun. En fin de compte, vous ferez tous teshuva. Il y a une promesse dans la Gemara que tout le monde fera teshuva à la fin des temps. Le problème qu'on a, c'est comment réagir dans cette génération, on va mettre avec des révoltés qui, à l'âge de 15, 14, 16 ans, te font la loi à la maison, te font la terreur, oublient le respect des parents, parlent à leur père ou à leur mère comme si c'était des moins que rien, sans aucune valeur. Et ces gens-là, d'ailleurs, ne sont pas fiers d'eux-mêmes, parce qu'au fond d'eux, cette jeunesse qui souffre, parce que c'est une souffrance d'être comme ça, et je vais expliquer d'où vient cette souffrance, elle vient, cette souffrance, elle s'exprime par de la haine et de la révolte. On a de la haine. Et quand quelqu'un a de la haine, c'est pas la peine de lui parler de Moussar, parce qu'il a de la haine. C'est pas la peine de lui dire ce qu'il doit faire. Il a de la haine. Alors comment on tranche une poire en deux dans ce cas-là? Comment ça se passe? D'un côté, ok, j'accepte l'idée. Tu veux faire ce que tu veux? Fais ce que tu veux. De l'autre côté, on vit en famille. Tu pourris tes frères. Tu sais ce que c'est quand tu poses un fruit qui est pourri dans un saladier où il y a plein de fruits? Qu'est-ce qui se passe pour les autres fruits qui étaient bien? Ils se pourrissent tous. Donc, que toi, tu fasses ce que tu veux, c'est une chose. T'as envie de pourrir ta vie? Pourris ta vie. T'as envie d'aller au Guéhinnam? Tu dis que tu vas t'en sortir plus tard? Va au Guéhinnam. L'homme est emmené là où il veut aller, va. Il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on soit toujours là pour toi, on sera là pour toi. Mais il y a une chose que tu peux pas faire. Tu veux qu'on te respecte, alors respecte les autres. Ça peut pas aller que dans ton sens. Tu peux pas dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, en cassant et en brisant l'éducation des autres. Ça, par contre, on peut pas se permettre. Que toi, tu veux y aller au Guéhinnam, va crever au Guéhinnam. Mais tu peux pas emmener tout le monde au Guéhinnam. Parce que là, par contre, t'es indigne de mes sites. Et là, on n'a plus le droit d'avoir de pitié pour toi. Donc, les règles sont simples. Et les règles sont simples, c'est ce que j'ai expliqué à cette fille. Je lui ai dit, regarde, quand tu rentres à la maison, toutes tes pourritures, tes saletés, tes insultes, ta façon de parler, ton côté médiocre, ton côté naze de la vie, parce que t'es un gros naze, ok? Parce que toi-même, tu le penses de toi-même, sans te juger. Mais ça veut dire que c'est pas une question de jugement. Ça veut dire qu'en fait, t'es qui dans la vie? T'es rien? T'es quoi? T'es rien? Tu fais quoi de ta vie? Rien. Donc comment tu t'appelles? Rien. Espérons que Bezrat Hashem un jour, Titzmach Yeshua Mise. Espérons que de ce rien devienne tout. Parce que ça peut arriver chaque jour. Comme dit Rabbi Nachman, le jour de la naissance d'une personne, c'est que Dieu lui-même a estimé que le monde ne pouvait pas exister sans lui. Donc tu as une mission à faire. Et comme on a vu avec Rabbi Akiva, qui pendant 40 ans de sa vie n'était rien, il est devenu Rabbi Akiva, celui dont on parle en 2021, aujourd'hui, dans ce Beth Midrash et dans d'autres Beth Midrash. Il n'y a pas de désespoir. Aujourd'hui, tu n'es rien, mais demain, tu seras beaucoup. Parce que des fois, l'histoire veut te cacher. Elle veut te cacher parce que tu inquiètes beaucoup le Yetzerara. Méfiez-vous beaucoup des gens ou de ces jeunes filles que vous voyez révoltées, qui n'ont rien à faire de ceci et cela. Hier, pour la bar mitzvah de Idan, je suis au téléphone avec une jeune fille qui a rejeté la tzniout. Elle ne veut pas être pudique. Et elle a dit à sa mère, je viens à la bar mitzvah non pudique. Lui passe la main au téléphone. Je suis au téléphone. Je regarde, je pose une question. Demain, toi, tu te maries, tu fais quelque chose, ok? Tu veux que les gens viennent habillés en te faisant plaisir ou en allant à l'encontre de tout ce qui te ferait plaisir? T'as beau tsnoua. Tu viens pour le bar mitzvah, tu viens pas pour toi, c'est pas un restaurant. Tu viens pas pour te kiffer, tu viens pour faire donner de la joie, du respect à l'autre. Sache que le bar mitzvah, il veut que tout le monde vienne pudique. Hier, elle est arrivée avec une robe pudique. Je vais regarder de loin, je vais lever la main, elle m'a fait un clin d'œil. Je lui dis, Kol HaKavod. Je lui dis, tu vois, c'est même pas une question de religion. C'est une question de savoir-vivre. Demain, tu fais une soirée carnaval. Faut venir tous habillés en clown blanc. Tout le monde va venir habillé en clown blanc. C'est fou quand même. Pour des ch'touillottes, tout le monde respecte. Ah non, la soirée, oh, t'es pas bien en clown blanc? Fais voir ce que t'as acheté. Sois comme tu veux dehors, mamie. Aval, tu viens quelque part, respecte. Quand tu rentres dans une maison, tu ne peux pas imposer aux autres de fumer ce que tu veux, de parler comme tu veux ou de faire ce que tu veux. Si vraiment tu ne veux pas comprendre cela, prends ta valise et va vivre ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre tout le monde pour un abruti comme toi. Ça, c'est pas possible. Les mots sont durs dans ce que je dis, mais il serait peut-être temps que la jeunesse se réveille. Vis ce que tu veux vivre. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. C'est ça que tu veux. Tu sais comment on dit? La vie est une école. Tu vas apprendre de la vie. Tu sais, le temps passe vite. Aujourd'hui, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 27 ans, 30 ans, et alors? Et qu'est-ce que je suis? Ben, je suis rien. J'ai été bête. Moi, je me rappelle jusqu'à, il n'y a pas tellement longtemps encore, combien je regrettais de ne pas avoir appris bien les choses à l'école. Chaval, bevadai, au lieu de discuter, constamment parler, qu'est-ce qui me reste de ces discussions pendant que le prof y parlait? Qu'est-ce qui me reste? Rien. Mais si j'avais été intelligent, que j'avais construit dans la racine de ma jeunesse, parce que quand est-ce qu'on forme les fondations d'une vie? Quand on est jeune. Mais par contre, quand tu as des problèmes d'oseille, papa, maman, quand on est en prison, papa, maman, quand on a un problème de santé, papa, maman, c'est tout à quoi on sert. C'est les shmoa. Alors, mima zeba nafshach. Si on est tous des bonnes neshamot, d'où est-ce que ça vient? Réponse très simple. Ouvrez bien grand vos oreilles, comme ça on va finir ce chiou rapidement, mais avoir de l'efficacité dans les mains. Ça vient d'un monde de clipotes explosives. Il y a des clipotes. Les clipotes, ça veut dire que quand tu as trop de clipas sur toi, tu ne vois rien de la réalité, tu n'entends rien de la réalité et tu n'adhères à aucune réalité. Tu vis dans un monde, dans un cocon, dans lequel le seul monde de vérité, c'est le tien. De quoi est composé ce cocon? Il est composé d'influences extérieures, comme ces maudits portables dans lesquels on voit de la folie, de la débauche. On entend de la musique qui te casse la tête jusqu'à ce que tu ne réfléchisses même plus. Même les danses, c'est devenu, on dirait, des zombies. Toute la journée comme ça. À fumer des fumettes, on se demande ce qui fume. Ça veut dire qu'on est complètement dans un espèce d'endroit où l'esprit n'a plus son droit au libre arbitre. Il n'y a pas plus esclave au monde que quelqu'un qui est devenu dépendant de son yetzer hara. Tout est dans le n'importe quoi. Et on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent les années 60, vous savez, les pantalons pattes d'éléphant, là. 70. Ouais. Avec les gros joints et Bob Marley, et je fais ce que je veux, et je pète où je veux, et je rote où je veux. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui peut me donner un seul nom de ces gens-là? Enterrés comme des sacs poubelles. Une année de révolte qui a mené aujourd'hui à quoi? On ne peut plus du n'importe quoi, de coucher avec n'importe qui, de dire n'importe quoi, d'aller nulle part. Tout ça pour s'oublier. C'est-à-dire que le but de ce monde, c'est de se concrétiser en sachant qui je suis, qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais diriger mes pas. Qu'est-ce que je vais être pour mes enfants? Qui je serai demain pour moi-même? Quel nom je vais laisser sur terre? C'est des grandes questions. Ces gens-là ne se posent même pas ces questions-là. C'est après la mort qu'ils se les posent. Mais là, il est trop tard. Et la reine, quand on vit dans un monde de clipotes, c'est pas la peine de dire à ton fils, lève-toi prier, viens à la bête à Knesset, fais attention à ce que tu dis. Là-bas, il vit dans un monde de nuages, totalement nuageux, complètement dans son monde à lui, se prenant supérieur aux autres, beaucoup plus intelligent que les autres, beaucoup mieux réussi que les autres, alors qu'au fond de lui, il est on ne peut plus malheureux. Et d'où est-ce qu'on sait ça? C'est qu'il est constamment à la recherche du bonheur à travers toutes sortes de nouvelles émissions, nouveaux copains, nouveaux joints, fumer, s'oublier, s'enfermer, laisser le temps venir nous chercher. Voilà exactement ce que vit notre jeunesse dans beaucoup de domaines, en espérant qu'un jour viendra quelque chose qui va les réveiller, parce qu'au fond d'eux, ils savent où est la vérité. Le problème des parents, c'est que les parents, ils veulent des enfants réussis alors que eux-mêmes sont loin d'être des parents réussis. Ils veulent de leurs enfants qu'ils réussissent là où eux ont échoué. Avec les divorces, boum, on divorce. Mais l'enfant, il dit, mais attends, tu crois que ton divorce chez moi, il a pas de conséquences? Tu crois que, oh, t'as divorcé, tu t'entendais pas avec maman? Bah alors, c'est bon, ok, bah très bien. Waouh, magnifique. Tu crois que lui, il aimerait pas rentrer à la maison et voir sa propre mère avec son père? Tu crois qu'il n'aimerait pas avoir une maman qui lui dise « Bonsoir mon fils, j'espère que tu vas bien chérie ?» Mais qu'est-ce qu'ils vivent les enfants? Des divorces désastreux, avec des insultes, avec des partis pris. Ou pire encore, un père qui est qu'une vitrine du monde religieux et qui derrière parle très mal avec sa femme, ne montre pas d'empathie, n'a pas d'amour. Quand tu veux que tes enfants ils t'écoutent, quand tu veux que Be'ezrat Hashem, ce que tu dis soit dans le monde de l'influence, c'est pas à 15 ans qu'on éduque un enfant, baba, réveille-toi. Allô, mamouche, c'est pas maintenant que ça se passe. C'est depuis qu'il est petit. Quand Be'ezrat Hashem, il y a une complicité entre les enfants et le père. Quand le père, il est là, au lieu de dire, ouais, mais je travaillais, il fallait bien que j'amène à manger. Bah ouais, bah alors justement, te plains pas maintenant des résultats. Tu peux pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Quand la cavote d'avoir été travaillé, je veux bien. Mais de l'autre côté, si on reprend un petit peu le temps que t'avais libre, si t'étais avec moins de copains, toi aussi, quand t'étais jeune, ouais, mais j'étais pas bien, faut me comprendre. Mais ton fils n'est pas psychiatre, baba. Ton fils, il n'a pas eu l'éducation qui était la base minimum d'amour dont il avait besoin. Résultat, il s'est auto-créé un amour complètement tamé autour de lui, complètement impur autour de lui, qui lui donne aujourd'hui une satisfaction. Et toi, tu viens aujourd'hui, les mecs, il y a de la Torah, faut faire tchouva. Mais va crever toi et ta tchouva. Tu m'intéresses pas. Et puis, papa, il y a un truc que j'ai oublié de te dire. S'il y a une personne au monde à qui je veux pas du tout ressembler dans ma vie, c'est certainement toi. Alors viens pas me donner des leçons de morale. Comme je dis souvent, quand on vient à dire à ses enfants ce qu'ils doivent être, en disant, crie pas, sois quelqu'un de bien. Mais est-ce que t'as donné l'exemple, toi, Bichlal, à la maison avec ta femme? Non. Ne fais pas ce que je fais, mais écoute ce que je te dis. Ça ne marche pas comme ça. Cette génération est beaucoup trop avancée, beaucoup trop intelligente. Qu'est-ce que je dis?
C'est ça.
Mais le fait de demander ça à ses enfants, c'est aussi leur montrer qu'on a fait une erreur. Voilà.
Alors, faut le dire. Très, très bonne. Eric, tu as dit quelque chose de très intelligent. Faut le dire à nos enfants. Faut être honnête avec eux. Faut leur dire, regarde, je te dis franchement, j'ai commis beaucoup d'erreurs qui ont fait de toi aujourd'hui tes défauts. Ne t'en veux pas, c'est moi le responsable. C'est bien d'être honnête avec ses enfants. Mais malheureusement, cette phrase-là n'est jamais dite. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours, ouais, je comprends pas, tu te lèves pas, ouais, je comprends pas, tu travailles pas, ouais, je comprends pas de faire rien de ta vie, mais toi, tu fais quoi? Toi, t'es qui, toi? Toi, tu parles d'amour, quel amour t'es capable de donner avant d'en parler? Tu comprends ce qui se passe? Ce qui fait que les parents, comme je le dis souvent, aujourd'hui, c'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. C'est les parents qu'il faut éduquer. C'est-à-dire, éduque-toi tout seul, sois bien, et quand il y a un truc qui va pas, je te le dirai, hein. Mais le fils, il te dit, mais va te regarder dans un miroir, t'as vu ta tronche? Mais t'as vu à quoi tu ressembles? T'es pas capable d'obtenir une discussion sans t'énerver? T'es pas capable de dire un truc sans crier? T'es pas capable de faire un qui-douche sans insulter? Mais les enfants, ils sont pas bêtes. Les enfants, ils vivent dans cette atmosphère, mais ils en veulent pas. Et quand le mec, il dit comme ça, bon, allez, chut, chacun, je fais un bar Torah. Mais on n'a pas envie d'écouter ton bar Torah. Parce que c'est une Torah qui est pas intéressante. C'est une Torah qui nous prend la tête. C'est une Torah qui ne reflète pas ce que j'ai envie de vivre. Moi, ça m'intéresse pas ta vie de couple. Moi, si c'est ça que je veux être avec ma femme, je préfère être non religieux. Je préfère aller avec elle le Shabbat à la plage que d'être une famille avec un kissou et une kippa qui se prend la tête toute la journée. Ça m'intéresse pas. Vous vous insultez à la maison, vous dites que vous êtes religieux, mais ça m'intéresse pas. Il serait peut-être temps de remettre un peu les choses à leur place. Ce ne sont pas tout le temps nos enfants qui sont responsables de leur éducation. Faut arrêter les délires. Les parents ont une très grande part d'éducation à donner. Et leur éducation leur est due. Ça veut dire que si depuis le début, on a fait tout ce qu'il fallait faire, après, il y a bien entendu le joker principal de l'éducation qui est la prière. On prie. Mais par exemple, moi je sais que si demain je dois dire à mon fils, mon fils n'est pas venu ce matin, il est parti en bas chez Rabbi Meir à 8h, je sais pas quelle heure, ok? Je l'ai réveillé, je dis mon fils, je vois que tu es très fatigué, repose-toi baba, essaie d'aller prier plus tard en minyan si tu as envie. Et pourtant, c'est un ben Torah, un yeshiva... Mais je vais pas lui dire, je comprends pas, ton père il se lève, toi tu te lèves pas. Non, je suis pas là pour juger, je suis là pour l'aider. Est-ce que je préfère que mon fils prie seul à la maison avec beaucoup d'intention, qu'il vient pour moi à la synagogue, parce que moi je suis pas Dieu, je suis pas Moshe Bar Sinai. Oui, je veux que tu viennes à la synagogue. Pourquoi tu veux que je vienne? Tu veux quoi? Que je regarde un film à la synagogue? J'ai honte. Tu veux quoi? Je crois que je prie, j'ai pas envie de prier. Tu veux que je fasse quoi? Le semblant d'être religieux comme toi, papa, j'ai pas envie. Tu me saoules, tu me gonfles. Dégage. Allez hop, circule, rien à voir. Pourquoi? Ça me parle pas. Donc avant d'emmener un fils à la synagogue, on lui fait comprendre d'abord c'est quoi la valeur de la Torah. Comment on lui fait comprendre? Regarde comment ton père il a changé grâce à la Torah. Oh, si la Torah était capable de te changer, te rendre meilleur, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui me parle dedans. Mais il faut avoir une grande honnêteté à l'intérieur de nous-mêmes avant de vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent être. Et le problème qu'on a, c'est que malheureusement, on joue énormément avec un système d'éducation en disant « Mais je suis ton père !» Bah oui, bah si t'es mon père, donne-moi l'exemple. Si t'es mon père, apprends-moi à aimer, sans me le dire. Montre-moi c'est quoi de l'amour. Si tu dis que t'es mon père, montre-moi c'est quoi t'inquiéter pour moi. Être ce que moi je suis, comme je suis, tu peux m'accepter? Réponse, oui, je peux t'accepter, tout comme Yitzhak a accepté Esav. La question, c'est pas de t'accepter, mon fils. Je te demande par amour, en tant que père, ne me manque pas de respect. Parle-moi. T'as des choses, t'es pas d'accord? Parle-moi, mais ça ne te donne pas le droit de me parler mal et ça ne te donne pas le droit de pourrir les autres. Tu n'as pas le droit de pourrir les autres. Sinon, la réponse est simple et je la dis à voix haute. Prends tes affaires et dégage. D'où est-ce qu'on apprend une telle éducation à Shemishma ou Virachem? D'Akadosh Baruch Hu. Vaigar et Shotomé Gan Eden. À partir du moment où tu n'es pas capable de te plier à des règles de loi qui sont du niveau non pas de la Torah, mais du savoir-vivre, et que c'est comme ça que tu vois les choses, alors baba, il n'y a pas de problème. Tu veux que je te respecte, il faut que tu respectes les lieux. Ici, même si on est tous un peu tordus, on veut une éducation de Torah, on veut pas de gros mots dans cette maison, on veut pas de manque de respect dans cette maison, et le respect ne doit jamais aller que dans un sens. Comme je le dis d'ailleurs, C'est vrai que le respect des parents est primordial dans une famille, mais n'oubliez pas que le père aussi a le droit et le devoir de respecter ses enfants. Ça aussi, ça ne donne pas le droit de leur parler comme si c'était des moins que rien. Ça ne donne pas le droit de les humilier en public, et ainsi de suite. Mais la crème, malheureusement, je le dis à voix haute, avec beaucoup de regrets pour chaque père et chaque mère, mais on n'a que ce que l'on a, on ne vient récolter que ce que l'on a semé. Et si des fois dans la vie, on a fait tout ce qu'il fallait faire, souvent j'entends les mamans qui pleurent et qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie pour avoir un fils pareil ou une fille pareille ?» Parce que les filles font vraiment souffrir. Et des filles aujourd'hui qui amènent leurs copains à la maison en poussant leur mère s'ils dégagent de mon chemin. La question, il faut se demander, c'est vrai, au niveau psychologique, pourquoi ? Ne fais pas cette tête, ça peut arriver demain. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ça nous arrive ? Si tout vient d'Hachem, pourquoi Bémet ça nous arrive ? Alors, il y a des discussions à avoir, c'est sûr. Et si les discussions ne tiennent pas, et que la fille te dit « je fais ce que je veux, je couche où je veux, avec qui je veux, où je veux », la réponse, c'est « prends tes affaires et va le vivre ailleurs ». Ici, tu es sous mon toit, et sous mon toit, il n'y a pas de ce genre de choses. Jusqu'à maintenant, c'était notre toit, mais puisque tu m'enlèves de chez moi et que tu en as fait un chez toi, permets-moi de te rappeler que tu étais chez moi. Si c'est la manière dure que tu veux, c'est ce que tu vas avoir. Si c'est la manière douce que tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Que tu veux te donner à n'importe quel mec dans ta vie, je suis pas Dieu. Tu rendras des comptes, je prierai pour toi, je t'oublierai jamais, tu es mon enfant. Mais que tu viennes le faire à la maison, ou alors que tu veux faire ceci et cela, quelqu'un me dit, moi je fume le Shabbat, comment je fais ? Mon père veut pas que je fume, ben, je va fumer en bas. Toi, tu veux pas t'empêcher de fumer, tu fais ce que tu veux. Il est venu avec un espèce de, comment dire, un tatouage. Ouais, moi et mon père, il a pas à me dire ce que j'ai à faire, aujourd'hui j'ai 16 ans, ben, va fumer en bas. Respecte ce qu'il est. Mais tu peux pas prendre un cendrier, te mettre à table Shabbat pendant qu'ils font le Bar Torah. Yesh Gvoul, il y a des limites. Tu vois un goy, quand il vient à table d'un juif le Shabbat, j'ai vécu à maintes reprises, qu'est-ce qu'il respecte ? Il respecte. Il met une kippa, il dit je peux prendre, excusez-moi, je peux. Il respecte. Toi, tu respectes pas. Ça veut dire que les chabed, c'est pas une question de Torah. Tu vois, le goy, il est pas religieux, mais il respecte. Velachen, Bezrat Hashem, le plus beau message que vous pouvez donner à vos enfants et la plus belle chose que vous pouvez faire avec eux, c'est de leur apprendre, Bezrat Hashem, à communiquer, s'asseoir avec eux, sans s'énerver, sans s'insulter, dialoguer et dire viens, ce qu'on appelle, on met des règles dans cette maison. Viens, on met des règles. Je te force pas à venir à la synagogue, je te force pas à faire le kidou, je te force à rien de tout ça. Ça, c'est entre toi et Dieu. À partir de quand un homme devient un homme dans la Torah ? 13 ans. 13 ans, bar mitzvah. Ouais ? C'est pas maintenant que tu vas l'éduquer. Le mec, il a 15 ans, tu peux pas l'éduquer à 15 ans. T'inquiète pas, la vie va l'éduquer très vite. Il va se retrouver très vite dans une situation où il va comprendre ses erreurs. Et il va avoir deux choix. Ou s'enfoncer encore plus jusqu'à atteindre le bas du bas et donc il ne pourra que remonter. Ou alors se reposer des questions. Et combien j'ai vu ça ? Mais des tarés, des tards. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ! D'un coup, le mec a 20 ans, il se réveille, il reprend ses études, il devient une bombe atomique. Moi, j'ai connu une personne qui avait pour Dieu Michael Jackson. C'est-à-dire les posters chez lui, même sous la mezouza, il a mis Michael Jackson habillé en rouge comme ça. Il n'embrassait pas la mezouza, il embrassait Michael Jackson. Tu vois pour toi à quel point. Aujourd'hui, il est Dayan. Aujourd'hui, il est Dayan, le mec. Il a eu un éveil un jour. Et ses parents pas religieux du tout. Un matin, il a eu un éveil. Il s'est levé un matin. Il a entendu un cours de Torah qui s'est mis en route tout seul. C'est sur son portable. Il fait une fausse manœuvre. Il a écouté, il a dit, tiens, c'est quoi ce truc ?
Il s'est pas mis tout seul, pourquoi ?
Oui, bon, d'accord, mais je t'explique que lui, il m'a raconté. Il était dans son lit en appuyant avec son coude. Et il a écouté un Dvar Torah, ça lui a parlé, ça a duré très peu de temps. Il a dit, tiens, c'est intéressant. Il s'est intéressé à ce Rav. Il a écouté, réécouté, réécouté, réécouté. Il a fait sa Aliyah en Israël. Il a fréquenté, il a eu le bonheur de fréquenter une personne qui était pratiquante. Il a emmené lui aussi un cours, ça a commencé à lui parler. Il est rentré en yeshiva, mais en très peu de temps. Il n'est pas encore Dayan, pardon. Il fait ses études de Dayanout. Il continue aujourd'hui à faire ses études de Dayan. Il est passé d'un mec complètement en bas de l'échelle à la barbe sous le menton. Et grâce à Dieu, j'ai appris qu'il s'est marié. Et t'as des gens qui viennent de rabbins et ils sont avec les tatouages, les boucles d'oreilles, ils font plus rien. Et la mère avec le kissouille, le père il a la barbe jusqu'en bas, et ça crée pas l'aile. Alors, ce qui est certain, c'est que la seule solution, c'est la discussion. La seule solution, c'est la discussion. Une discussion où Béhémet, on met tout sur la table. Mais tu peux pas venir après avoir créé autant de dégâts en tant que parent, avec des fois la perte d'une personne, avec un divorce, avec une absence continuelle, tu peux pas venir dire à la personne ce que tu attends de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de base en lui. La base, c'était ton éducation, mais t'as pas été présent. Si, t'as été présent. Allez, prends tes affaires. Allez, viens, on y va. Allez, va dormir. Allez, viens manger. C'est pas d'éducation, ça. Ça, c'est pas d'éducation. Ça, Mohammed, Christian, Bouddha, tout le monde le fait, ça. Ça, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est de s'intéresser à la vie de nos enfants. C'est d'être proche d'eux quand ils étaient jeunes. De leur demander comment ils vivent les choses aujourd'hui. Où on était. Ouais, mais moi, Rav, tu touches, je suis pas psychologue. Bah, alors, ne te plains pas. Tu veux jouer maintenant les psychologues? Zélo kacha. Quand tu construis un immeuble où il n'y a pas de fondation, ne t'étonne pas qu'au premier coup de vent, tout tombe. T'étonne pas. Vous êtes fous, quoi. Le mec, il n'a pas fait de fondation, il dit, tiens, ben, je veux que ça tienne. Et on dit, attention, l'immeuble, hein, ne tombe pas. Mais je peux pas ne pas tomber. J'ai pas envie d'être ce que tu es. Je n'ai pas envie de vivre ce que tu vis. Je veux ma vie à moi. Tu dis que Dieu, il existe, qu'il a créé libre arbitre. Laisse-moi dans mon libre arbitre. Faut payer, je paierai. Ça te regarde, ça ne te regarde plus. Papa, maman, Todaraba, je me prends en charge. Scruto ou pas? Est-ce que c'est son droit ou pas?
Son droit.
Est-ce que je pose une question?
Oui, c'est son droit.
C'est son droit ou pas?
Oui.
Son droit, c'est ce qu'il veut. J'ai pas envie. Alors ne le force pas. Tu n'as pas à forcer une personne qui n'a pas envie. En plus de ça, c'est anti-Torah de forcer une personne. Regarde comment il dit à Kadosh Baruch Hu. Ve'aya ekev tishmeu. La Gemara nous dit dans Megillah. Ve'aya bilshon simha. Quand tu dis vaya, et il sera qu'à la fin, vous m'écouterez tous. Ok? Comment Dieu il commence? Pas vayehi. Attention, hein, tu vas m'écouter. C'est pas avec un couteau sous la gorge. Ve'aya ekev tishmeu. Vous savez ce chidush comme il est beau? Il dit ve'aya. Chaque fois que tu l'utilises, c'est pour donner de la joie. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu viens dans ma Torah, c'est dans la joie. Mais si tu viens à ma Beit HaKnesset, si tu viens étudier la Torah avec « tu me gonfles, j'ai pas envie, ça me saoule », Dieu te dit « n'oublie pas un détail, c'est toi qui as besoin de moi, moi j'ai pas besoin de toi. Moi j'ai pas besoin de toi, le monde a existé avant toi et vivra après toi. J'ai pas besoin de toi moi à la synagogue. Alors pour qui tu viens? Pour faire plaisir à ton père? Viens, voilà papa, je suis venu, voilà. On embrasse la mezouza, bonjour tout le monde, et on repart. Ça y est papa, t'as eu ton sucre, bas de la queue, t'es content, une petite caresse? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'une personne peut emmener quelqu'un à la Torah quand il lui a donné de la joie? Comment, il dit le Shulchan Aruch, quand un enfant il vient à la synagogue, qu'est-ce qu'on lui donne?
Des bonbons.
Pourquoi on lui donne des bonbons? Pour lui apprendre que la synagogue, c'est matok. Moi, je me rappelle quand j'ai fait tchouva, à 17 ans et demi, j'allais à la synagogue, qu'est-ce que ça me gonflait? Qu'est-ce que c'était long? C'était dur. Je connaissais pas tout ça. À la synagogue, une jambe sur l'autre comme ça. J'ai dit, punaise, la prochaine fois, je prends un bouquin. Qu'est-ce que c'est long? Je connaissais rien de l'hébreu, rien. Et je voyais les gens, ils se mettaient debout. Amen, Amen, Yeshemeraba, Idgadal, Bitkad. Je connaissais rien, je regardais ça. C'était un spectacle. Mais qu'est-ce que c'était long? Après, ils chantaient, Bar Yochai. Et moi, je me rappelle, je disais à l'autre, mais pourquoi ils font de l'opérette ici? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils chantent? C'est qui ce Bar Yochai? Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. On apprend petit à petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas me croire, j'ai raté beaucoup de Shabbat. J'y allais. Et un jour, j'ai vu une fille, au Tournel, à l'époque, qui s'appelait Yaël. J'aimerais Chota Bechol Asherla. Tu vois, elle est mignonne, celle-là. Ah, il y a des gonzesses à la synagogue. Tiens, ça commence à être intéressant ici. Les enfants, ils ont besoin de bonbons. En imitzer, ce que je vous raconte, c'est la vérité? Je mens pas? La Torah m'intéressait pas à l'époque du tout, je connaissais pas. La prière, j'ai trouvé langue, c'était beaucoup d'opérettes. T'es là, t'as une jambe sur l'autre, faut venir. Ok, mais pourquoi faire? En boîte de nuit, au moins, tu fais quelque chose. Un petit verre, une petite gonzesse. Side to the night fever. Allez, tu te danses, un petit pas, sympathique. Et là, t'es là, en train d'attendre. Et alors, tu pries. Bon, alors HM, je voudrais bien acheter une voiture. Hein. Voilà, je suis venu à la synagogue. Et alors? Eh ben, t'as pas de voiture, t'as une corkinette. T'as une trottinette au maximum. À quoi ça sert de prier? Si tu viens pour prier et qu'il t'écoute pas, Dieu, alors à quoi ça sert de prier? Ça prend du temps. Dieu, il a mis 6 jours pour construire ce monde. C'est pas, allez les mecs, je fais tchouva, tout le monde fait tchouva. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Et quand on est un exemple à la maison, quand on rentre à la maison avec le sourire, salut mes enfants, ça va mon cœur, Baruch HaShem. T'as une tête de mouton, mais en tout cas, je suis content de voir que tu vis. J'espère que tu vas bien et ça, je serai toujours là, mon fils, pour toi. Quand on voit un changement, quand on voit que BMF, la personne est devenue meilleure, on dit, attends, mais qu'est-ce qui t'a rendu meilleur, toi? Là, tu m'intéresses. Là, ça m'intéresse. Quand une femme, elle voit son mari devenir meilleur à la maison, eh bien, elle fera du rave de son mari, son rave à elle. Pourquoi? Parce qu'elle voit que la personne est devenue meilleure. Et toi-même, tu peux pas rester médiocre avec tous tes démons à l'intérieur et demander à tes enfants d'être ce que toi, tu n'as pas réussi à être. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas demander à tes enfants, dans lesquels tu n'as pas créé de base d'éducation, de devenir aujourd'hui des immeubles de haut étage, alors que tu n'as pas été là, quand il fallait être là. Alors, comment on fait? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'espoir? Réponse. Prie et deviens meilleur. Ne dis pas ce qu'ils doivent être. Montre-leur comment devenir meilleur. Comment? En étant toi-même quelqu'un d'exemplaire. Zeperu Shadava, pour fermer cette parenthèse sur l'éducation. Le minimum à garder, qui n'a rien à voir avec la Torah, ni le Shulchan Aruch, c'est un respect mutuel. On n'a pas le droit de manquer de respect. On n'a pas le droit de s'insulter. On n'a pas le droit d'être un mauvais exemple pour les autres. La grandeur d'une personne, comme l'a été, et je prendrai juste cet exemple pour finir, Elisha ben Abouya était très religieux. Il était aussi grand que Rabbi Akiva en Torah. Il a décidé de tout rejeter, même plus d'être Shomer Shabbat. En marchant, il a arraché un tznon, un radis, dit la Gemara. Il a pris une goya prostituée et il est parti avec. Et la Gemara lui dit, mais tu n'es pas le maître de la Torah? Il lui a dit non. Il lui a dit, tu n'es pas Elisha ben Abouya? Il n'a pas répondu. Elle lui dit, apparemment, je me suis trompé, tu es Acher, un autre. Ça veut dire que tu as épousé la Sitra Ahara. Tu as préféré te... Qu'est-ce qu'il a répondu? Rien du tout. Il a continué sur son chemin de médiocrité à être anti-Torah. Mais n'oubliez pas un détail. Je finirai avec ça. Et j'espère que Béhémet, tout le monde en prendra de la graine. Quand Rabbi Meir Baal HaNes Alav HaShalom est venu apprendre de lui la Torah, regardez ce que faisait, vous n'allez pas me croire, regardez ce que faisait Elisha ben Abouya. Vous savez qu'on n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Shabbat, sur un cheval, de peur qu'on arrache une branche pour le frapper. Non seulement il montait sur le cheval, non seulement il prenait une branche pour le frapper, c'est vraiment je fais des averotes, en toute connaissance de cause. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que, en parlant avec Rabbi Meir, il lui apprenait les halakhot. C'est-à-dire, lui qui était rachat, il lui apprenait les halakhot à Rabbi Meir Balanes, qui lui savait manger le fruit et jeter la klipa. Ça veut dire qu'il savait prendre ce qu'il fallait prendre et ne pas prendre la mauvaise influence. Ouais. Alors qu'ils étaient en train de marcher, pendant Shabbat Kodesh, et qu'il lui apprenait les halakhot sur son cheval, il lui a dit stop. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit arrête-toi là. Tu n'as plus le droit de faire un seul pas. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit parce que, au maximum à 1 kilomètre de la ville, on n'a pas le droit de sortir du troum. On n'a pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de la ville. Et là, Rabbi Meir, il a dit quoi? Sur ton cheval, pendant que tu me parlais des halakhot, tu as eu le temps de compter les pas de ton cheval pour savoir que tu as fait 1000 mètres, 1 kilomètre. C'est-à-dire que, regardez qu'il était au niveau de l'esprit. Tu ne peux pas avoir deux pensées en même temps. Pendant que Elisha ben Abouya lui enseignait toutes les complexités du Shulchan Aruch à Rabbi Meir Baal HaNes, il était en même temps, chaque pas de son cheval, en train de compter 50 cm, plus 50 cm, plus 50 cm, plus 50 cm. Dans le même esprit, il lui a dit stop. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Quelque chose qui va clôturer ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. T'as le droit d'être Mechalel Shabbat, mais veille à ce que les autres, eux, ils aient leur Shabbat. Lui, il était Mechalel Shabbat. Elisha ben Abouya, qui connaissait toute la Torah et qui a renié Dieu et sa Torah. Kafar ba Torah. Mais attention, il avait quelque chose de bien. C'est que il a tenu compte du respect des autres. Toi, tu es Shomer Shabbat, je respecte ton Shabbat, je vais tout faire pour que tu aies un bon Shabbat. Moi, je respecte pas, c'est mon problème. Mais toi, je respecte. Ça, c'est quelqu'un de bien. Et grâce à cette conduite-là, on a gardé les Mishnayot de Elisha ben Abouya dans la Torah. Normalement, on aurait dû tout effacer de ce qu'il a dit. Tout ce qui est impur, ce qui sort de lui, c'est impur. Vous voyez un exemple à suivre. Pourquoi Dieu nous a laissé Elisha ben Abouya? Parce qu'il est un très grand exemple que Dieu repose son âme à ce grand sadique. Il a une faiblesse, maïm avec les anges quand il montait au Gan Eden et tout ça. Mais il a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a eu son choix. Et son choix, c'était de tout rejeter. Très bien! Mais il a tout fait pour que les autres, par contre, restent dans la Torah. Alors la Torah lui dit, on continuera à te faire honneur. Parce que toi, tu fais ce que tu veux, tu perds au Gehinam, c'est entre toi et Dieu. Mais que tu permettes aux autres d'être dans la Torah, alors on permettra qu'en 2021, 2000 ans plus tard, on rappelle toujours ton nom en disant à la vache à l'homme que sur lui repose la paix. Baruch Adonai l'Olam, amen, amen.
Thank you.